Bonjour à tous, je suis Alice Vacher, je vous souhaite la bienvenue dans l'Empreinte. L'Empreinte, c'est un podcast unique qui s'intéresse à la révolution du sens. Moi, mon sujet de prédilection, c'est l'empreinte que peuvent laisser des entreprises sur notre planète. Chaque semaine, des PDG de grands groupes, des start-upers ou encore des responsables RSE répondent à mes questions pour essayer de comprendre ensemble comment les entreprises agissent aujourd'hui pour notre planète. Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Stanislas Gruau, le fondateur d'Explora Project. Salut Stanislas.
Salut Alice.
Je suis ravie que tu sois venu jusqu'à moi parce que tu es basé où ?
Basé à Annecy, ouais, en Haute-Savoie.
Ouais, c'est pas mal.
Ville, je crois, où il fait le mieux vivre des Français.
En toute objectivité.
Absolument.
Donc, tu vas nous parler un peu plus d'Explora Project. Donc, Explora Project, c'est une agence qui propose un tourisme durable et d'exploration, puisque tout le monde ne peut pas avoir accès finalement à ces voyages. Et vous venez de lever 1,7 million pour justement vous orienter davantage vers cette durabilité des voyages, proposer éviter la surexploitation de certaines zones et puis aussi faire marcher l'économie locale en demandant à des guides locaux de participer à ces explorations.
C'est parfait.
Tu dis ça encore une fois en toute objectivité, mais je te laisse expliquer davantage.
Non, mais je te remercie, c'est une bonne explication. Explora a été lancé il y a 2 ans, tout pile. Je l'ai lancé tout seul à la base. Aujourd'hui, on est 15. On est basé à Annecy. Officiellement, on est une agence de voyage, puisque c'est une activité réglementée en France. Donc, on est bien une agence de voyage. Un peu particulière, puisqu'on est évidemment full digital. On n'a pas pignon sur rue. Notre mission, elle est double. Elle est de proposer des expériences de vie, presque, ça va même un peu au-delà du voyage, qui soient vraiment extraordinaires, par le prisme du voyage d'aventure et du dépassement de soi. Et d'offrir ces expériences-là, évidemment, dans le cadre le plus respectueux de la nature et de l'environnement possible. Donc, sans trop rentrer dans les détails, c'est à la fois Explora, c'est des produits qui sont très particuliers, des produits d'aventure, on appelle ça des expéditions, on appelle ça des explorations, chacun y projette un peu son fantasme personnel. En tout cas, on est dans le dépassement de soi. Il y en a pour à peu près tous les environnements et tous les niveaux de difficulté. Et on relève, en effet, comme tu l'as expliqué, on tente de relever le pari du voyage à impact positif pour l'homme et l'environnement. On entend beaucoup parler de l'impact négatif du secteur du tourisme en règle générale. On entend parler de compensation. Nous, on souhaite aller plus loin. On souhaite que nos voyages et nos expériences aient un impact positif. Donc, ça veut dire déjà avoir l'impact le moins négatif possible dans un premier temps sur les produits. Et dans un second temps, tout un volet d'action pour être capable de compenser le carbone et d'avoir des impacts ensuite positifs sur le social, sur la biodiversité, sur la géologie. Donc, c'est finalement prendre l'homme pour ce qu'il a envie de vivre sur la planète dans une expérience forte, tout en respectant l'environnement et permettre de faire ce projet-là grâce à la levée de fonds à l'échelle, parce que c'est bien beau et voilà, il y a plein d'artisans à droite à gauche qui font des choses magnifiques dans leur coin. Je trouve que le défi est aussi d'arriver à faire de l'artisanat et du très beau et du pur et du respectueux, mais à l'échelle et en volume. Et c'est ça, aujourd'hui, le pari que c'est en s'explorant.
Donc, finalement, c'est éviter de mettre un pansement, de traiter le fond. Et est-ce que, concrètement, tu peux me donner des exemples d'actions que vous mettez en place, justement, pour assurer cette durabilité du tourisme, du voyage peut-être, finalement, quand on se déplace, on va quand même laisser une empreinte carbone. Comment est-ce que tu arrives à la décarboner ?
Oui, alors il y a tout d'abord le premier élément, c'est comme tu l'as dit, l'impact carbone équivalent, pour faire simple. Après, c'est pas toujours du carbone, ça peut être d'autres gaz à effet de serre, mais on parle de carbone équivalent pour simplifier. Donc, nos produits spécifiquement ont un impact carbone hyper limité, déjà parce que ce sont des voyages qui sont la plupart du temps à 92% aujourd'hui accessibles en train. Au départ de Paris, donc ça c'est déjà une grande
j'ai vu vraie ça, puisque première j'ai promesse. Moi aussi pour un voyage.
Mais voilà. Donc on travaille après sur des solutions un peu plus complexes sur les vols, mais pour l'instant en tout cas majeure partie du catalogue déjà a un impact sur le transport limité. Ensuite, on est pour une partie aussi, grosse partie de notre offre sur des hébergements qui sont soft, donc des hébergements de bivouac, la nuit à la belle étoile, des hamacs, des tentes dans les arbres, ou des gîtes, ou des refuges, ou des cabanes. Voilà, donc on est dans le rustique. Explora, c'est rustique, c'est vivre une expérience qui n'est pas celle de tous les jours, avec, quand on est bien équipé, quand même un niveau de confort qui peut être vraiment cool. Donc on va travailler sur le transport, on va travailler sur l'hébergement, on va donc après travailler sur le matériel. On est dans le reuse, dans le recycle, dans le repair. Donc évidemment, on travaille avec de très belles marques comme Patagonia, avec qui on répare le matériel. On permet également aux participants de louer le matériel, parce que les gens, ils partent en voyage et ils s'achètent n'importe quoi qu'ils réutiliseront pas forcément. Donc, on essaie d'être aussi de bons conseils sur le matériel. Ensuite, il y a la filière nourriture, la bouffe. Il faut faire du circuit court, du local, du bio, du en vrac, zéro déchet, pas de plastique. Donc, il y a finalement toute l'expérience est pensée pour que une expérience Explora ne laisse aucune trace. Aucune trace. Quelle qu'elle soit, il n'y aura pas de plastique. Nos expéditions sont quasi zéro déchet. C'est-à-dire qu'à la fin, on arrive, on n'a pas 10 kilos à bainer dans le parking du coin, dans la poubelle, la première poubelle qu'on trouve, comme c'est le cas dans plein d'agences. Donc, un gros travail sur le fond du produit, un gros travail d'accessibilité. Et puis, ça, c'est sur le produit. Puis après, il y a aussi quelque chose il y a aussi un axe très fort sur le business model. Et c'est pour ça qu'on a levé de l'argent, en fait, finalement. C'est qu'aujourd'hui, le surtourisme, qui est vraiment notre cheval de bataille, c'est quand tout le monde fait les mêmes voyages, les mêmes endroits, au même moment. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour bien comprendre ce phénomène-là, il y a un peu d'Instagramisation, en fait, de l'expérience de voyage où on veut tous faire ce
que les... On voit le Cinque Terre, d'ailleurs, partout. Hein.
Ouais, notamment... Mais c'est magnifique. Et ce qui est presque triste, c'est que ça reste des magnifiques endroits. Néanmoins, aujourd'hui, une partie est liée un peu aux dérives des réseaux sociaux. Mais c'est finalement le gros du problème est lié au fonctionnement du secteur du tourisme. En fait, c'est un grand entonnoir. Il faut s'imaginer qu'il y a trois métiers dans ce secteur-là. Il y a en haut de l'entonnoir les agences de voyage qui distribue les catalogues de tour opérateur, qui est le cran inférieur, où il y en a donc beaucoup moins. Une agence de voyage, c'est celle qui a pignon sur rue, je sais pas, Fly Voyage, et qui vend les catalogues du Club Med, Alibert Trekking, Terre d'Aventure, Voyage Privé, que sais-je. Les tours opérateurs, qui sont donc ces Club Med, Voyage Privé, Alibert Trekking, etc., qui vendent un petit peu en direct et qui sont revendus donc par des milliers d'agences. Et puis, il y a le réceptif local dans le pays, qui est le seul qui fait vraiment le voyage. Et en fait, tous les tours opérateurs commandent à ces réceptifs locaux dans le pays de destination. Par exemple, Windigo Travel au Canada opère pour tout le groupe Voyageurs du Monde et opère pour des groupes américains, des groupes canadiens et pour une centaine de tours opérateurs qui sont vendus par des milliers d'agences. Donc ça, c'est un grand entonnoir. Et à la fin, il n'y a que Windigo Travel qui va opérer un voyage qui a été vendu par des agences japonaises, australiennes, chinoises, françaises, comme étant à l'entrée de l'entonnoir une expérience unique. Mais à la fin, si c'est le même qui fait tout, on finit tous par faire la même chose au même endroit, au même moment. Mais ce n'était pas la promesse de base.
Et en termes d'écologie, du coup, ça a une empreinte de fait de passer tous au même endroit de...
Nécessairement. Enfin, ça, à partir du moment où on passe tous au même endroit, on dessine un sentier, on pousse la biodiversité là où elle saura se retrancher. On y laisse des déchets, où la biodiversité, finalement, où la faune, en tout cas, se nourrit des déchets qui sont là, prennent des mauvaises habitudes, se rapprochent des villes pour aller chercher les aliments qu'ils ont goûtés sur le sentier. Et donc, en fait, on perturbe complètement l'écosystème. Et puis, plus il y a de gens, plus il faut des infrastructures. Donc, il faut bétonner, il faut un chiotte, il faut une épicerie, il faut bien un parking pour les cars qui arrivent. Au début, c'est pas des cars, évidemment, c'est un parking en terre, et puis ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on finit par prendre un ticket d'entrée pour aller prendre sa photo dans un tourniquet, pour aller prendre sa photo très connue dans les fjords en Norvège. Mais derrière, il y a un tourniquet, il y a une billetterie, quoi. Donc, finalement, ça vient de ce système-là. L'idée de la levée de fonds chez nous est de dire, on va pousser un petit peu plus loin ce qu'un acteur comme Evaneos avait fait il y a quelques années, qui est un autre acteur du travel, pas spécifiquement sur l'aventure, mais qui a commencé à désintermédier finalement ce secteur-là. Et Explora va plus loin en désintermédiant complètement le secteur et en disant, entre le guide local et le client final, où qu'il soit, il y a qu'Explora. Il y a personne d'autre. Donc, on est l'agence, on est le tour opérateur, on est le réceptif, on fait tout. Donc, les expéditions, c'est nous qui les construisons avec les guides locaux. On leur donne une durée de vie. Parce que le problème de ce Windigo Travel et de ce grand entonnoir, c'est qu'il n'y a pas de durée de vie. Le capitalisme pousse à continuer, ça marche, on continue. Plus il y a de gens, plus il y a de photos, plus il y a d'Instagram, plus il y a de gens qui veulent y aller, etc. Plus on a d'infrastructures, plus on peut amener de gens à la journée. On peut en amener 4000 par jour, alors qu'avant, on pouvait en amener 1000 parce qu'il y a des infrastructures, parce qu'ils vont plus vite sur les chemins avec le goudron. Et donc, et ainsi de suite.
Et tu n'as pas peur, justement, que des agences de tourisme voient là où va Explora, voient aussi des posts Instagram, etc., s'en inspirent, ils disent, bah, nous, on va proposer du coup cette destination aussi. Et finalement, le serpent se prend la queue.
Alors, ça, c'est sans compter, on est quand même, nous, on est du B2C, quoi. Donc, ça, c'est sans compter le 2C, qui est quand même pas con, et évidemment, qui est le seul juge, et qui saura comprendre l'impact d'un voyage, d'un autre, d'un acteur, la valeur ajoutée d'un acteur. Donc, il y a aussi un gros volet. Il y a aussi un gros volet dans notre mission, c'est de faire comprendre en fait ce que j'explique là en 5 minutes, mais c'est, on pourra en parler des heures. Finalement, c'est faire comprendre l'impact de nos voyages sur la planète. En fait, on le connaît pas. On dit aux gens, prenez pas l'avion. Tu prends l'avion, t'es vraiment un sale mec. Moi, tu vois, je suis allé en Bretagne et je suis parti avec ma voiture. Bravo, mais bon, t'as une maison en Bretagne, moi j'en ai pas. Qu'est-ce que je fais? T'es gentil. Donc en fait finalement déjà il y a faire comprendre pour que les gens puissent choisir d'eux-mêmes et se dire bon là ils vont trop loin, ils sont extrémistes, j'adhère pas, ou il y a un peu de bon je prends, ou c'est trop tôt pour moi, je prendrai dans 2 ans, et puis il faut laisser à chacun le temps de cheminer quoi. Donc c'est déjà expliqué et je crois qu'il y a une mission d'information du grand public.
Puis comme les voyages ne sont pas accessibles à tous aussi, puisqu'il y a quand même une certaine condition physique à avoir, il y a des niveaux d'ailleurs par voyage, enfin par expédition finalement.
Ouais, on a La mission, enfin en tout cas, moi j'ai envie de rendre ça accessible quand même au plus grand nombre. Ouais. Donc il y a aujourd'hui une dimension physique, ou même de dépassement physique dans nos voyages. Donc c'est vrai qu'on a, comme tu le dis, on a des niveaux, on a 5 niveaux. Le niveau 1, c'est le sportif du dimanche qui a une paire de baskets dans son placard. Si je suis en forme, mais pourquoi tu dis que je suis pas en forme, Nico? Bien sûr, regarde-moi, je suis en forme. Voilà, c'est ces gars-là qui savent pas trop s'ils sont en forme, qui essaient de savoir.
Qui vont se tester du coup, voilà. Et qui vont se dire bon, j'arrête la raclette.
Qui essaient de voir s'ils sont en forme dans le regard des autres, en posant un peu la question. Voilà, on les connaît tous, on a tous des copains comme ça. Bon, bah ça fonctionne, ils viennent, on a du.
Bah, c'est un moment et puis ils sont contents, je pense, à la fin en disant bah, en fait j'étais en forme.
Bien sûr. Et puis après l'idée c'est un parcours initiatique. On a jusqu'au niveau 5 où là on va être sur des expéditions vraiment engagées, de traverser du Groenland, de la Scandinavie en ski kite, des trucs de 2-3 semaines, 4 semaines.
Et tu peux tester les niveaux avant ou pas?
Alors, on est en train de mettre ça en ce moment sur notre site.
Si tu te retrouves avec quelqu'un qui pense avoir le niveau, tu sais, c'est comme au ski avec les étoiles. Ouais, moi aussi, j'ai foncé dans le tas, on m'a mis en étoile 3, j'avais pas du tout le niveau. J'ai foncé dans le tas, je peux dire, je me suis fait, mais voilà. Si t'arrives avec quelqu'un qui a pas de niveau, ça peut être un peu compliqué.
Ouais, ça c'est vrai, c'est un vrai sujet. Et puis, on se rend compte que les gens ont beaucoup de mal à se jauger, juger. Souvent, on voit que les femmes se sous-estiment, puis les hommes.
Ce que j'allais te dire, mais je préférais te laisser le dire. Voilà. Mais c'est vrai, elles vont dire maintenant, je n'ai pas de niveau, et puis elles vont arriver en premier.
Les hommes, l'inverse. Ouais. Donc, il y a l'information sur le site sur expliciter ce qu'il y a sur chacun des niveaux, ce qu'il faut savoir faire dans son quotidien, en heures de marche équivalente. J'ai vu que tu marchais beaucoup.
un petit peu beaucoup.
Donc, on essaye d'expliquer ça sur le site, et puis là, on va développer des pages plus. Quiz pour que les gens puissent mieux se connaître et puissent voir les activités qui leur correspondent le mieux. Donc oui, essayer de démocratiser aussi le voyage d'aventure. Il y a aussi une autre partie de la mission, c'est vrai que ça fait beaucoup de missions, mais qui est d'augmenter la part du voyage d'aventure dans le tourisme en général.
C'est vrai qu'on n'a pas l'idée d'aller, enfin moi plus, mais parce que je suis plus, on va dire, éduquée comme toi, donc c'est plus le type de voyage que j'aime faire, la rando, etc. Mais quand j'en parle autour de moi, les gens vont plutôt à Cannes, par exemple, en ce moment, ou voilà, dans le confort extrême, à pas faire grand chose, et ils reviennent pas forcément plus heureux ni.
Ouais, le voyage d'aventure, pour donner quelques chiffres, il y a 10 ans, c'était 2-3% du tourisme mondial. Donc, une cacahuète, quoi. Aujourd'hui, on est à près de 10%.
Ah déjà. Oui,
donc, ça a quand même vraiment, vraiment augmenté. C'est un marché qui est en croissance d'à peu près 20% par an.
Et est-ce que c'est pas parce que justement ces zones n'étaient pas exploitées du tout par l'homme? Aussi.
Oui, alors bon, il y a toujours cette carte. Aujourd'hui, le tourisme est présent dans 5% des espaces de la planète. Donc, c'est pas beaucoup. Mmh. Quand on regarde une carte, 5%, c'est rien. Donc, on voit bien qu'on a des hubs et des clusters qui, c'est le mot est à la mode, qui regroupent voilà, l'ensemble des fameuses destinations touristiques. Mais le voyage d'aventure ne sera jamais un tourisme de masse. Mais néanmoins, ça fait partie de ces marchés qui sont précurseurs dans des marchés gigantissimes, qui même si le but, ce n'est pas que le marché du voyage d'aventure devienne la norme ni le marché de masse, il est que le tourisme classique aille piocher dans ce marché pionnier des bonnes pratiques. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Bien que toutes les grandes surfaces et l'agroalimentaire ne soient pas bio, ils vont quand même, et que ça a commencé avec des épiceries locales, ils vont quand même piocher dans cette vague verte et bio des bonnes pratiques, et bien sûr, tant mieux. Et probablement, le vrai impact de cette première épicerie bio qui a ouvert, c'est d'avoir été capable de faire une réaction en chaîne sur le secteur au global. Et c'est aussi, nous, un peu ce qu'on veut faire. Mmh. On n'est pas, l'impact d'Explora, et pourquoi est-ce qu'on fait connaître Explora, pourquoi est-ce qu'on s'exprime là-dessus, pourquoi est-ce qu'on cherche pas, pourquoi est-ce qu'on cherche pas à être isolé, pourquoi est-ce qu'on ouvre nos business plans, pourquoi est-ce qu'on envoie nos decks, pourquoi est-ce qu'on montre la solution qui est la nôtre, pourquoi est-ce qu'on essaie de faire des coalitions, c'est qu'on n'y arrivera pas du tout seul et que c'est pas notre combat. Enfin, moi, je suis pas en train de faire un TPE, en train de montrer que ma boîte est la meilleure que les autres pour le mettre sur LinkedIn. On est en train d'essayer de changer les choses. Et nous, on est un acteur, mais microscopique. Sauf que, je ne sais pas par quel hasard, notre voix, elle porte beaucoup plus que des grands groupes. Donc, il y a quand même, on se dit quand même qu'il y a quelque chose à la croisée de tout ça qui peut faire un effet assez important.
Justement, il y a quand même un engouement en ce moment, et notamment suite au Covid. D'ailleurs, est-ce que la crise du Covid a été néfaste pour Explora ou au contraire, finalement, elle a un peu accéléré le développement d'Explora ? Parce que la levée a été faite pendant le confinement.
Oui, la levée a été discutée avant le confinement. Ouais. Les prises de contact avaient été faites début 2020, mais rien n'était signé à l'entrée en confinement. Donc, elle a été signée et actée pendant le confinement. Tous les acteurs de la levée auraient pu se retirer sans aucun souci. Donc, évidemment,
en plus,
mais aucun n'en fait.
C'est complètement...
Oui, avant le confinement, on avait des promesses d'à peu près 1,2 million et on a fini par lever 1,8. Donc, en fait, finalement, c'est vrai qu'il y a une grosse partie de cette tranche qui s'est additionnée pendant le confinement. Pour nous, ça a été et comme pour beaucoup de Français, ça a été un catalyseur de beaucoup de questionnements, cette phase de confinement. Ça a fait exploser Explora, dans le bon sens. On avait 1500 membres sur la plateforme au 15 mars. Aujourd'hui, on en a 30 000. Et il y a eu un pic complètement fou.
Je pense que le côté aussi confiné, chez soi, besoin de nature, besoin de découvrir, on s'est peut-être rendu compte au final que notre essence même, c'était la nature et la reconnexion à...
C'est vrai, reconnexion avec soi-même, puisque le confinement a été quand même pour beaucoup des moments un peu introspectifs, où on a pris du recul, même si... on était dans un environnement particulier et pour certains c'était compliqué, mais avec les enfants notamment, où c'était presque plus compliqué en logistique que dans la vie normale. Mais ça a été pour beaucoup, pour nous en tout cas, je pense que ça a été un accélérateur à faire comprendre la connexion avec la nature dont l'homme vient et dont l'homme a besoin pour être épanoui, la reconnexion avec soi-même, trouver un moment pour soi. Et puis ça, c'est une tendance après de fond sur plein de marques et plein de secteurs, c'est se tourner vers des marques qui ont un purpose, quoi, qui ont un sens. Et une fois qu'on a dit ça, on va chercher les marques qui avaient un sens dès leur création et pas celles qui en ont un maintenant. Parce qu'il y a eu quand même eu beaucoup de purpose washing, je ne sais pas si le terme est exact. Mais, et donc voilà, on s'est dit, mais eux, ils braillent dans leur coin depuis un an. Et ils sont,
après, pour en avoir eu beaucoup, c'est quand même dans l'empreinte. Ce qui est vrai, c'est que maintenant, ils savent très bien que le consommateur est plus dupe, c'est un consommateur. Et donc, quand ils vont quand ils vont avoir un message, ils vont être obligés de l'incarner et du coup, de mener les actions derrière. Donc même si de base, ce n'est pas des convaincus, ce qu'on disait, comme les retailers qui vont proposer du bio par nécessité, au moins le business va devenir green. Et maintenant, on ne peut plus décorréler économie d'écologie. L'économie va devenir verte. Donc, voilà. Après, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut quand même qu'il y ait un fond de vérité. Mais d'ailleurs, de plus en plus de responsables RSE sont d'abord des personnes militantes. Maintenant, en fait, ils sont obligés parce que par exemple, un Total qui doit se réinventer ne peut pas, avec ses équipes même, se réinventer. Il va prendre un militant et dire bah, « Écoute, toi, tu vas venir et puis tu vas nous faire bouger parce qu'en fait, on ne sait pas faire. »
Ouais, c'est... Sur cet exemple-là, on n'a pas de leçon à donner, on est tout petit, on n'a rien à perdre à dire ça. Enfin, je veux dire, il faut quand même être conscient de ça. Oui, on est droit dans nos bottes depuis le début là-dessus, ok, merci, mais en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est vraiment de faire changer les choses. C'est les grands groupes qui vont faire changer les choses. Et c'est beaucoup plus dur pour eux, parce que c'est des modèles qui ont...
En fait, ils ont aussi une prise de conscience et ils n'ont pas encore acquis, bon, ça devient de plus en plus acquis, que penser long terme, ça ne veut pas dire qu'à court terme, il n'y aura pas de chiffres. La pensée long-termiste green est compliquée pour les gens aujourd'hui. Ils se disent, non, mais... moi, aujourd'hui, c'est un investissement, c'est ça comme coût en termes de logistique, en termes de, etc. Mais est-ce que je vais y gagner ? Et en fait, ils n'arrivent pas à voir long terme, mais bon, ça évolue. Et c'est aussi grâce justement à des acteurs comme toi que ça évolue. C'est parce qu'ils voient aussi qu'il y a une espèce d'un essor de solutions sur le marché et sur le tourisme notamment. Moi, j'ai eu Franck Gervais dans l'empreinte d'accord. Qui disait encore que c'était encore un secteur, il fallait se réinventer, il fallait trouver des solutions. Et toi, ta solution, même si d'abord c'est un voyage d'exploration, c'est quand même sur le tourisme, qui est quand même l'un des secteurs les plus carbonés. Hein.
Oui, je crois que c'est 7 ou 8% de l'empreinte carbone mondiale. Donc c'est quand même assez gros, mais ça vient principalement des clubs, des infrastructures, des hôtels qui sont dans la branche.
Ça va être compliqué d'échanger compter. Hein.
Oui, ça va être compliqué, mais en fait. Il faut peut-être pas aller chercher le radicalisme ou la radicalité plutôt. Il peut y avoir, on doit pouvoir aujourd'hui être un citoyen qui voyage un peu avec du voyage d'aventure pour quelques semaines de congé ou 15 jours, un peu avec dans la maison de copains ou de famille ou que sais-je, et puis peut-être un extra pour quelque chose de différent dans un. Une nuitée dans un hôtel, un truc super, un machin. Je veux dire, le voyage peut être aussi multifacette. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a les consommateurs. Moi-même, je ne fais pas que du voyage d'aventure.
C'est comme quand tu manges bio, tu n'es pas obligé de tout manger bio.
Oui, voilà. Donc, je pense que c'est une approche plus raisonnée. Et en tout cas, elle parlera plus aux gens. Et aujourd'hui, on se pose vraiment cette question-là de comment arriver à être audible en fait, sur ce sujet-là sans être militant, donc excluant les grands groupes, par exemple. C'était l'exercice un peu périlleux qu'on devait faire sur BFM en face de Pierre et Vacances, qui, avec finalement, le combat était presque perdu d'avance pour eux, gagné d'avance pour moi. Puis moi, j'avais envie d'essayer de faire un lien pour communiquer, et lien que j'ai toujours avec eux depuis, et je trouve assez constructif. Mais faire comprendre déjà au grand public l'impact des choses. Mais voyager avec Explora par rapport à voyager avec un autre du même secteur d'aventure, par rapport à voyager en club, par rapport à rester chez moi. C'est quoi, en termes d'impact carbone, d'une semaine de ces quatre options-là ? Je pense que les gens sont incapables de répondre. Je peux vous le dire. Quand on est chez soi, une semaine de consommation carbone chez soi, l'ADEME dit que c'est à peu près 200 kilos de CO2 par semaine.
Même quand on ne bouge pas ?
Ouais, enfin, c'est le transport, le...
Sauf moi qui marche.
Voilà, exactement. Il y a le chauffage, il y a l'infrastructure, l'habitation, il y a tout ça. En ce moment, c'est un peu plus light. Puis il y a la nourriture, avec des proportions, j'imagine, de végétariens. Et de, voilà, tout ça est une moyenne. Quand on va dans un club ou dans des structures bulles chauffées, aquatiques et compagnie, c'est plutôt, on rajoute 150 à ça. Donc, c'est presque 350. Donc, on fait quasiment x2 sur sa consommation. En tout cas, on fait 80% de plus sur sa consommation habituelle qu'on a à Paris, à Lyon ou que sais-je. Quand on fait du voyage d'aventure avec les acteurs moyens de notre secteur, on fait environ 50 à 70. Donc déjà, on divise sa consommation moyenne par 4 ou par 5. Chez Explora, on est entre 19 et 20. Donc on est à peu près entre 2 et 3 fois moins que les acteurs du secteur. Donc ça donne quand même des échelles. Et on est à peu près entre 15 fois à 18 fois moins que le tourisme de masse dans des clubs. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous dit quand même que c'est un impact réel. Et là, je ne parle même pas de l'eau. Quand on va dans des clubs ou autres, on fait x2 sa consommation d'eau classique. On passe de 1000 à peu près 2000 litres par semaine. Et quand on va chez Explora, vous avez vos 3 litres d'eau que vous buvez par jour. La douchette est terminée, des lingettes bébé, et puis il n'y a même pas besoin de douche. Non, alors c'est un peu extrême, mais ça met quand même les choses en perspective. On se rend compte que quand on parle d'industries qui polluent et d'autres qui font des efforts pour, dans les proportions, on est quand même de 1 à 15. Donc quand même, je pense qu'il faut, quand on réserve ses vacances, il est bon, dans un premier temps, de se poser la question. Et de regarder.
Et puis dans le mot explorer aussi, c'est une exploration, mais peut-être une exploration aussi de soi-même. C'est pour voir aussi jusqu'où on peut vivre avec du minimalisme, parce que c'est presque une aventure minimaliste. Quand tu parles de confort, etc., on peut aussi se découvrir minimaliste. Là, pendant le confinement, il y en a plein qui se sont dit, mais en fait, j'ai besoin, je suis pas matérialiste, j'ai pas besoin de tout ça. Et c'est peut-être aussi ce qui va permettre à des personnes de se dire, bah, moi, j'ai envie de, au moins de tenter une aventure explorer et puis après d'en faire d'autres. Et par exemple, si quelqu'un a adoré son aventure et dit, moi, je vais retourner au même endroit l'année prochaine, comment il fait?
Alors, c'est un bon point. Aujourd'hui, on aimerait et on travaille à rendre nos expéditions éphémères, c'est-à-dire de laisser le temps à l'écosystème de se régénérer avant de revenir. Donc ça, c'est un peu c'est une science qui doit être quasi exacte, mais qui est un petit peu complexe. On est d'abord dans la première phase aujourd'hui et on s'est entouré de Laura, qui est une jeune diplômée, qui est doctoresse en écologie de l'Université de Lyon, toute jeune, et qui travaille sur l'impact mathématique appliqué à l'écologie. Donc vraiment, elle est vraiment dans ce calcul et cette mesure précise de l'impact sur toutes les différentes briques qu'on a évoquées. Donc déjà, le premier point, c'est mesurer l'impact de nos voyages, voir l'impact négatif que ça aurait et au bout de combien de temps l'écosystème pourrait éventuellement se régénérer pour qu'on puisse revenir. Donc là, on n'est pas capable encore de répondre à toute cette question, mais le déroulé est en train de se faire et ça se fait à vitesse grand V. Franchement, je pense que d'ici fin 2020, on sera capable d'avoir une mesure d'impact sur toutes les briques de tous nos voyages et des éléments de nombre de fois où on pourrait passer et l'impact que ça aurait sur l'environnement. Ça, je pense que dans les prochains 2 à 3 mois, ce sera déjà disponible. Donc ça, je pense que les gens déjà vont voyager et se dire, mais attends, voyager, en fait, c'est un impact. C'est pas je mets ma vie entre parenthèses pendant que je voyage. Parce qu'on connaît ça, hein, les gars qui ont 5 poubelles chez eux. Et puis, ils sortent du train, de l'aéroport, du truc, leur 4x4, la canette de coca et basta dans le fourré, quoi. Parce que je ne suis pas chez moi et donc...
Limite, je me lâche, tu sais, comme avec la nourriture, tiens, là, je fais attention, puis là, vas-y, je me fais un bon...
C'est vrai.
Ouais, c'est ça, hein, et c'est un peu le côté extrême. Mais en fait, il ne faut pas voir l'écologie comme cette espèce, voilà, cette angoisse écologique, comme tu sais, le militantisme, etc. En fait, c'est un mode de vie, c'est un style de vie. Et finalement, ce que tu offres, ce n'est pas... tu vas pas devoir changer tes vacances et opter vers un explorer project. C'est juste qu'en plus, on te propose une nouvelle formule de vacances qui va te permettre de faire autre chose. Et en plus de ça, c'est bon pour la nature. Donc, ça va dans ta quête de sens. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous sensibles à l'écologie. On voit le réchauffement climatique. On le voit aussi en ce moment même. Hein. Je regardais un reportage sur les glaciers. Là, ça fend le cœur. Donc, en fait, tu te dis, bon, en plus de ça, c'est génial. Et ça me permet de découvrir quelque chose. Donc, c'est plein de sens. Et aujourd'hui, je crois que la quête de sens... c'est au cœur de tout le monde.
Oui, non, mais tu as raison. On a le premier prisme qu'on a choisi de prendre dans les tout premiers temps d'Explora, c'était le prisme du dépassement physique pour être capable d'accéder un peu à ce sens. Pour moi, dans mes expériences perso,
on peut revenir. D'abord, tu étais trader avant de monter Explora.
Oui.
C'est fou, ça.
Oui, j'ai un peu une autre vie. Ouais, je suis sorti de l'EDEC 2009 et j'ai fait... jusqu'à 2017.
Comment tu as eu l'idée de trading, qu'est-ce qui...
Alors, sur la naissance du projet en lui-même, vraiment les projets entrepreneuriaux, pour moi, c'est la rencontre d'une personne et puis d'un marché, quoi. Donc, c'est moi, avec mon histoire, j'ai, en parallèle du trading, j'ai toujours fait beaucoup de courses à pied. J'ai traversé la France, j'ai le record de la traversée de la France en courant que j'ai fait en 2011. C'est le record aujourd'hui, Lille-Nice en 15 jours. Je l'ai fait en septembre 2011. Et donc ça a été pour moi un peu une aventure de vie. J'étais tout seul avec mon sac à dos, avec des copains qui faisaient la logistique. Enfin, c'était à bonne franquette. Mais c'était une aventure extra. Ça a été vachement médiatisé. Et j'avais accolé une association à ça. À chaque kilomètre que je courais, mon employeur de l'époque abondait pour l'enfant à l'hôpital, etc. Donc c'était... Et cette aventure-là, qui était extraordinaire dans ma vie de gars ordinaire, ça m'a fait un électrochoc, en fait. Ça a été complet. Je me suis dit, en fait, on a tous le droit de faire des trucs vraiment extraordinaires. Moi, c'était la course à pied, parce que c'était mon délire du moment. Et j'adorais ça, c'était facile. Je bossais avant à la BNP avec des horaires de l'espace, donc je pouvais courir que la nuit dans Paris. Enfin, c'était... Donc, je me suis mis à la course à pied par un choix particulier. J'avais touché quelque chose d'extraordinaire dans ma vie normale, quoi. Et je me suis dit, ce sentiment-là, j'aimerais bien le faire vivre à d'autres. J'avais gardé des relations avec plein de gens qui m'avaient écrit pendant ce défi-là. Et je leur avais demandé, c'est quoi ton Lille-Nice à toi? Et puis après, j'avais fait faire par une JE d'école une analyse de mon intuition de ces échanges-là plus poussée. Et puis, 80% de l'échantillon disait, je rêverais à la fin de ma vie avoir réussi à faire plap, ce truc-là. Et 80% des gens, c'était de l'exploration au sens large, de l'aventure, une transat, la Mongolie à cheval, la traversée de l'Himalaya, le tour du monde en van. Le tour du monde en van, tu vois, tu serais dans cet échantillon. le tour du monde en van, en famille, voilà, que des projets quand même d'aventure, un point B, un peu hors du temps, pendant une période plutôt longue, donc un break de vie. Je m'étais dit, ok, ça c'est vraiment génial. Et puis moi j'adorais la logistique, j'adorais mettre du mouvement à quelque chose d'inerte. Et c'est comme ça dans ma vie, j'adore quand ça part de rien, page blanche. Je trouve ça hyper excitant. Et donc je dis, moi je vais le faire pour les autres. Ça me révolte qu'ils ne soient pas capables de se motiver pour faire leur rêve à eux. Je vais faire une agence qui va les aider à le faire. Et donc j'avais déposé Explora, tout court à l'époque. Et le baseline, c'était Life Changing Experience Agency. Donc, c'était vraiment des expériences de changement de vie. Et puis, quand ça, c'était en 2011-2012, et puis je suis resté en trading, promotion, Genève, head desk, machin. Je suis comme une petite souris, j'étais pris dans la roulette de l'argent, du confort, ma femme et moi, on est arrivé au constat qu'après la naissance de notre première fille, on s'est dit, en fait, la trajectoire là, elle est pas excitante.
En plus, c'est en quête de temps, tu devais plus avoir de temps non plus.
Ouais, évidemment, c'était du 24-24, pas de jour. Enfin, c'était quand même une vie particulière. Mais je peux pas cracher là-dedans parce que ça m'a.
Ce qui t'a permis de faire ce que tu fais aujourd'hui aussi.
Exactement, qui m'a probablement donné la maturité pour être capable de le faire aujourd'hui avec pleine confiance, aussi vite, en sachant où je vais, comment travailler, comment m'organiser, comment j'imagine manager des équipes aussi. Pas avoir peur de prendre des décisions dans l'instant, parce que c'était bien la seule définition de mon boulot d'avant, assumer ses actes, ses décisions, les conséquences de ce qu'on fait, etc. Donc ça, ça a permis d'aller vite, en fait, dans les déroulés d'une phase qui, normalement, peut prendre du temps. C'est pour ça qu'Explora est allée, je pense, assez vite au début, ou va toujours, d'ailleurs, assez vite à la mise en place. Et puis, on s'est dit, voilà, cette vie-là, elle ne nous va pas. Et moi, qui ai gratté pendant ces années-là, j'ai gratté des calepins avec ce que je voulais d'Explora, avec le branding que c'est aujourd'hui, avec les mots que je voulais voir, avec ce que je voulais faire vivre aux gens. Et finalement, j'ai posé ma dème en retour de congé 2017. J'ai pu partir presque une petite année après. C'était un peu rocambolesque. J'ai réussi à m'extraire. Et puis... Et donc, ça fait deux petites années.
Et ta vie a changé, je pense, depuis 2 ans. Hein.
Oui, ma vie a changé. Le revers de la médaille de l'entrepreneuriat, c'est que c'est aussi très chronophage, que c'est dans ma tête en permanence. Ça n'a pas changé. Mais je suis quelqu'un d'hyper passionné, radical, voire extrême dans les choix que je fais. Donc, disons que je suis à 1000% dans ce dans quoi je me lance. Par contre, j'y trouve beaucoup plus de sens, ça c'est sûr. Le business que je faisais avant, nourrir la planète, amener des zones de surplus aux zones de déficit, du blé, du soja, du colza pour les gens qui ont besoin de manger. C'est utile, sauf que dans les proportions dans lesquelles c'est, on perd déjà le contact avec le sens premier parce qu'on est dans un métier nécessairement de spéculation sur les prix. Donc, on a une... C'est pas au moment où il y a la demande qu'on va offrir l'offre. On va attendre que les prix montent. Donc, on est quand même dans un jugement un peu permanent de est-ce que je sers la demande aujourd'hui ou est-ce que j'attends un peu pour gagner plus d'argent, qu'ils en aient vraiment encore plus besoin. Un peu particulier comme approche. Je dis pas que j'étais moi commanditaire de ça et que, mais dans le système, j'en faisais partie. Donc, nécessairement, je me suis rendu compte a posteriori que c'était une bonne décision de s'en extraire. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, je chemine comme nos participants sur ce sujet durable que j'ai presque découvert, moi, il y a 2-3 ans. J'étais dans une bulle qui n'était probablement pas la nôtre et un peu sourd de toute la détresse écologique qui m'éclate à la figure aujourd'hui. Mais avant, ce n'était pas notre business.
Donc, même toi, en tant
qu'écolo,
on va dire, t'as évolué depuis le début.
Oui, j'ai évolué, mais je ne suis pas du tout parfait. Je
pense qu'il n'y a pas d'écologisme parfait. Hein,
oui, je viens de loin. Déjà, j'ai fait un premier choix professionnel. Et à titre perso, on essaye aussi de changer, évidemment, plein de petites choses dans notre quotidien. L'alimentation, des choses qui me semblaient inenvisageable il y a quelques mois. En fait, j'y arrive, donc je suis content de voir ça.
Petit à petit, comme des petits
tas. Exactement. Donc, je trouve
que... Je pense encore une fois qu'il n'y a pas de perfection, tu sais, dans l'écologisme. Ouais. Je pense qu'il faut faire ce qui est le plus accessible pour chacun. Moi, tu vois, la marche, typiquement. Mais ouais. À côté de ça, il faut que je me chauffe, moi, l'hiver. Donc, voilà. Non, mais c'est, tu vois, on a tous nos zones de confort et d'inconfort. Et je pense que c'est accessible à tout le monde de savoir se remettre en question sur des choses, sur des choix. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Explora, là, du coup, pour les prochains...
Non, on peut souhaiter à Explora de...
Avec le Covid, quand même, qui va, qui vient, qui... En même temps, là-haut, il n'y a pas trop de risque de Covid.
Ouais, alors nous, c'est vrai que c'est nos meilleurs... là, c'est notre meilleure période. On n'a jamais eu autant de clients, jamais eu autant d'expéditions. C'est une la folie. Ce qu'on peut nous souhaiter, le plus important, plus que du chiffre, des participants, de la croissance, des levées de fonds... Tout ça, c'est les conséquences du moteur à la base qui est la flamme, quoi. Donc, pas perdre la flamme, garder cette énergie-là, quelles que soient les baffes qu'on va prendre sur ce sujet durable, parce qu'on ne peut pas prendre la parole sans prendre de baffes. Ça tombe bien, j'en ai pris pendant 10 ans, je suis résistant. Lâchez-vous, ça ne fera absolument rien. Donc, être courageux, ouais, garder le cap, être courageux face à notre conviction d'aujourd'hui et imaginer et espérer que financeurs et que participants seront plus convaincus par ce courage-là et cette mission qui est la nôtre et qu'on a envie de contribuer comme ça.
Merci Stanislas, merci d'être venu jusqu'ici. Merci à vous d'avoir écouté L'Empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Podinstall et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants que Stanislas. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans L'Empreinte.